Alors, c'est vrai que je vais réagir par rapport au premier texte où j'avais indiqué 6 points qui m'étaient venus à l'esprit. Mais je trouve que les questions qui sont abordées depuis ce matin sont tellement interreliées que j'ai envie de faire du lien d'abord avec les propos qui ont été introduits par Mme Créoche. Parce que l'un des points que j'avais souligné, c'est les catégories subjectives construites tout au long des dernières décennies par les politiques publiques et les dispositifs rattachés à la formation, insertion des populations migrantes. Et quand j'entends ce matin, par rapport à la politique d'insertion sociale, les politiques d'insertion sociale, les points que vous soulevez sur le pouvoir sur l'usager et l'approche par le trouble, je ne retrouve que mes réflexions à moi sur mes écrits depuis 2005, par rapport à la problématique de la formation linguistique des migrants. C'est-à-dire que la corrélation est évidente pour moi et la problématique est qu'on n'arrive pas à démêler la question de l'insertion sociale et de ce qu'est l'accompagnement social et des besoins sociaux de la logique de la formation. C'est-à-dire que c'est tellement imbriqué qu'on ne s'aperçoit pas, qu'on n'arrive pas à objectiver ce qu'est une formation. C'est que pour ces personnes-là, on ne parle pas des besoins. Vous et moi, si on va se former, on analyse des besoins. Et bien dans ce monde-là, on a d'ailleurs le nom de Lola, hein, le mot obstacle en lui-même. On n'a pas pu aller plus loin à l'époque avec Aurélie, parce que nous, en termes de réactance, on est une espèce de couple qui a cheminé ensemble, qui se connaît très bien. Et c'est une rencontre. Je pense que tout ce qu'elle cherchait en termes de didactisation et de formalisation, quelque part, nous, on avait essayé de faire, par exemple avec Marie-Claire, moi, avec Blandine Forzy sur la démarche atelier sociolinguistique, sur une approche systémique de l'interculturalité, avec une espèce d'obsession depuis 10 ans, d'objectiver, c'est-à-dire différencier l'objet des apprentissages des sujets apprenants. Moi, je suis sur ce fil-là. Quel est l'objet des apprentissages et quels sont les sujets apprenants, comme si je suis un didactique de l'anglais, des maths ou de l'activité professionnelle. Donc, j'essaye depuis plusieurs années, à partir d'un article de Guy Jobert que j'ai lu en 2000, hein, dans un numéro d'éducation permanente sur les métaphores agissantes en formation d'adultes, où Guy Jobert analyse les liens entre les façons de nommer, les façons de penser et les façons de faire en formation d'adulte. Donc il y a des métaphores qui circulent sur le rapport au savoir, etc. Et quand je me suis mise à analyser à partir de son article comment on nomme, comment on pense et comment on fait par rapport à l'objet et au sujet apprenant en formation linguistique, je me suis dit, effectivement, la problématique est là. Comment on nomme? Et bien, comment on nomme ces populations? On les nomme les alpha et les fleu, les post-alpha et les je ne sais pas quoi. Donc cette question des catégories subjectives avec des caractéristiques associées par rapport aux alpha, aux post-alpha et aux fleu, alors que fleu, hein, vous, c'est une discipline, c'est une méthodologie, c'est un objet d'apprentissage, le français avisé pour en tant que langue étrangère ou pour des étrangers, etc. Donc je me suis dit, moi qui suis une pédagogue, je me suis dit, pourquoi on est tout le temps en train de ne pas pouvoir démêler ça? Et les politiques publiques s'inscrivent toujours dans la dynamique du social. Hein. D'abord c'était le Fonds d'action sociale qui était la tutelle de ces formations-là. Ensuite on a navigué à certains moments entre le ministère du Travail, le FACIL, maintenant l'accès. Et après c'est le ministère de l'Intérieur qui pilote et qui prend les rênes. Et qui, effectivement, alors là, j'ai beaucoup apprécié aussi le lien avec le droit, ça m'a aidé encore à plus me distancier sur ces questions où on camoufle et on fait croire, mais finalement, qu'est-ce qu'on sort du chapeau? Et on sort du chapeau que l'apprentissage de la langue, la maîtrise de la langue, cette notion qui est aussi très ambiguë, eh bien, elle va être corrélée au parcours d'intégration avec des niveaux, etc. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est ce cheminement réciproque qu'on a fait avec des professionnels de la PMI, avec des professionnels de la formation qualifiante, avec des professionnels de l'accompagnement des assistantes maternelles, c'est de nous conformer réciproquement et essayer de répondre véritablement aux besoins dans une logique de parcours de professionnalisation et parcours de qualification pour faire des choix critériés, quelles que soient les personnes, les besoins. Donc cette distanciation par rapport au regard sur les difficultés, à un moment donné, elle n'existe plus, ce terme-là n'existe plus parce qu'on a déconstruit et on est parti sur des objets d'apprentissage et des visées d'apprentissage dans les projets qui nous permettent et qui ont permis pendant 156 heures de travailler de façon objective. Donc cette question de prendre un bout de système et prendre les acteurs du système, et je trouve qu'effectivement Aurélie a été le catalyseur entre la volonté politique, parce que si vous n'aviez pas été derrière pour soutenir Aurélie, pour maintenir le cap et pour qu'on aille au bout du projet, on ne serait jamais arrivé parce qu'on aurait été démoli parce qu'on percutait trop le fonctionnement du système. Donc je trouve que cette démarche très territorialisée, très expérimentale aussi, qui commence à s'installer dans le paysage et qui commence peut-être à faire des petits pour les métiers de la petite, pour les métiers de la dépendance avec d'autres acteurs avec qui nous travaillons aujourd'hui, montre les nouvelles façons de travail collectif et coopératif hein, où des acteurs d'horizons, de mondes et de frontières différentes se co-forment et font évoluer le système. Parce que si nous attendons que les politiques publiques, États, régions nous changent, les représentations ne changent pas. Après se pose la question de l'interculturalité, effectivement, et de quel type d'approche, pour quels ancrages et pour quelles appartenances. Donc moi, j'ai trouvé dans la volonté de comment faire culture ensemble, nous avons un fil. Hein, quand on prend comment on fait culture ensemble, par exemple, en tant que professionnel de la petite enfance. C'est ça. Par exemple, moi, je suis pour ce que j'appelle une approche systémique de l'interculturalité. Nous commençons d'abord par ce qui nous relie et on va voir comment nous filtrons la perception de la réalité partagée que nous vivons selon nos filtres, selon nos appartenances plurielles, etc. Parce qu'il y a quelque part cette obsession des origines, hein, donc il y a des écrits de chercheurs du CNED qui ont montré comment sont instrumentalisées les mentalités par rapport à l'obsession des origines. On rompt avec l'obsession des origines. Si on part de ce vivre ensemble qui fait société en France 2012, Tours 2012, Paris 2012, Val-de-Marne 2012, et on fait lien par rapport à des choses qui nous rassemblent d'abord pour pouvoir nous projeter. Mais quand on continue d'aller, par exemple, moi en tant que migrante, moi-même, hein, moi je suis en France depuis 25 ans, donc quelque part, mais postures didactiques sont habitées par mes propres processus parce que j'ai observé à chaque fois que j'allais à la préfecture, par exemple, renouveler mon titre de séjour, quand je voyais comment le rapport de force établi par le langage prime sur les origines et tout ce qu'on se raconte, et qu'il faudrait arrêter de discuter sur le FLI, le FLOU, le FOU et le FLS, et mettre en place une didactique de l'oral contextualisé où les personnes apprennent à utiliser la télévision, par exemple, comme source d'apprentissage tout seul, parce que nous sommes en 2012. Donc il y a une question didactique pure et formative qui, pour moi, quand on est en formation, j'essaye de dépolitiser la didactique, c'est-à-dire parlons didactique. Objectivons les moyens, comment on forme les formateurs, comment on traduit l'accompagnement au changement des pratiques. Et je trouve que le projet du Conseil général porté par Madame Créoff et Aurélie Bruno est exemplaire par rapport à cette mise en pratique et à l'approche actionnelle aussi. L'approche actionnelle, elle est très actionnelle. Voilà un exemple d'approche actionnelle où les sujets interagissent avec les vrais acteurs qui changent les représentations des uns et des autres. Parce que les 156 heures, ça ne se passe pas in vitro. Il y a des rencontres systématiques et régulières avec les acteurs qui avaient des représentations sur ces femmes-là, qui commencent à faire bouger parce qu'elles les rencontrent, et elles les rencontrent véritablement en tant que sujet, et pas en tant que représentants de la catégorie subjective qu'ils ont dans leur tête, femmes africaines, maliennes, cambodgiennes, etc. Et donc la didactique actionnelle et la didactique de la rencontre plurielle avec des acteurs pluriels, déjà entre nous, parce que nous on a appris à travailler ensemble entre acteurs qui, habituellement, quand on est linguiste, on ne travaille pas avec des professionnels des rames. Parce que vous savez ce que c'est que les rames. Nous, on a appris ce que c'est que les rames. Les rames, ce sont les relais assistantes maternelles, où c'est des instances d'accompagnement des professionnels, où il y a des supervisions, si j'ai bien compris. Eh bien, on a concocté le référentiel de formation et la didactique avec eux. Et donc, nous, on a fait des choses que, a priori, j'avais pas imaginé qu'on pouvait faire ensemble. Et donc, ces didactiques territorialisées, actionnelles, qui veulent faire changer les représentations ambiantes, eh bien, c'est dans le faire et dans le faire ensemble, réciproquement, à mon sens, que nous avons là un fil intéressant à démultiplier, peut-être pour faire évoluer les mentalités. Ce qui n'empêche pas les universitaires qui ont le temps et sont là pour chercher à faire vraiment évoluer les logiques du fil. Parce que là, c'est vraiment quelque chose. Tout le monde en parle comme si c'était devenu un objet déjà, alors que ça l'est pas. Parce qu'il ne peut pas y avoir une langue d'intégration. Il peut y avoir une langue intégrative qui joue un rôle intégratif. Il peut y avoir un apprentissage de la langue à visée d'intégration professionnelle, sociale, éducative. Mais français langue d'intégration, ça ne peut pas exister. Comme il y a un français langue de spécialité, par exemple. Oui, il y a une langue de spécialité quand on est chirurgien, quand on est laborantin, etc. Mais pas une langue spécifique d'intégration. Donc cette question de l'objet ou du champ qui est universitaire, effectivement, je trouve que c'est très bien que les universitaires se soient mobilisés. Et effectivement, là, on est à la croisée entre la formalisation de quelque chose qui remonte du terrain et un chercheur qui, elle, va en faire quelque chose par la suite. Voilà sur les réflexions. Après, effectivement, l'apport interdisciplinaire et les notions convoquées dans le cadre des formations linguistico-sectorielles, là, on n'est pas du tout dans le linguistico-centré, on est dans la culture des métiers de la petite enfance. Et là, par exemple, on a appris que dans la culture des métiers de la petite enfance, il y a plusieurs cultures, sous-cultures. Il y a la culture du conseil général qui agrée, et il y a la culture des branches professionnelles qui certifie. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Pour que les femmes qui venaient comprennent que quand on s'oriente vers un diplôme, eh bien, il y a tous ces enjeux-là à comprendre. Et puis, pour la mise en perspective, je me disais, effectivement, cette question de la déconstruction à la co-construction. Et pour moi, l'avenir est là. Une fois qu'on a déconstruit des représentations et des façons de voir, de penser, l'objet et le sujet, comment on fait pour co-construire ensemble ? Avec qui ? Dans quel but ? Et quelle modalité ? Je trouve que l'exemple, la forme de modélisation et d'expérimentation de cette action est, elle, intéressante en tant que. Parce qu'on est allé de la déconstruction à la co-construction, à la fois d'un référentiel de formation et de nouvelles formes pédagogiques.